en direz des nouvelles, Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Tania Tsikounas.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de VMDN en version coronavirus entre déconfinement et confinement, car c'est ainsi l'avenir du monde de la culture se dessine plus que jamais en point d'interrogation, comme on va le constater avec vous Marjorie Bertin. Bonjour Marjorie.
Bonjour Jean-François.
Alors que pour l'instant les spectacles vivants peinent à trouver des espaces pour être programmés avant septembre, que les répétitions reprennent tout doucement et que seuls les petits musées sont autorisés à rouvrir, vous avez décidé, Marjorie, de vous intéresser cette semaine aux spectateurs, car évidemment, sans public, il n'y aurait pas de spectacle. Vous êtes donc partie à leur rencontre, à ces spectateurs, en leur demandant de vous en dire un peu plus sur leur envie de culture pour ce que l'on appelle déjà le monde d'après.
Oui Jean-François, parce qu'on parle beaucoup des artistes en ce moment, mais qu'en est-il des spectateurs? À défaut de sortir moi-même, j'ai promené mes oreilles un peu partout en Europe, mais aussi au Maroc, pour savoir ce qui leur manque, toutes générations confondues, et ce qu'ils auront le plus envie de retrouver. Et on commence ce petit tour en France.
Je m'appelle Anthony, j'ai 22 ans. Tout ce qui se rapporte en fait à la musique et au live me manque énormément en ce moment. C'est des concerts qu'avaient été prévus pour cet été, pour le printemps. Il y a une frustration de ce côté-là, il y a une nostalgie aussi des concerts qu'on a pu voir avant. L'endroit où je rêve de retourner en premier, ça va être un concert, un festival, sans même savoir pour l'instant de quel artiste ou de quel groupe, juste l'ambiance d'un événement musical physique.
Même envie de retrouver du monde pour Omar à Bordeaux.
Ce que j'aimerais faire, c'est d'aller assister à un bon spectacle, une bonne pièce de théâtre au Théâtre National de Bordeaux. C'est une scène que j'aime bien et partager cette expérience avec du monde, avec des émotions et pourquoi pas un bon Pomra, un bon Wejdi Mouaoued ou Rabi Amrou ou Eli Nassane, ça me ferait énormément plaisir.
Je m'appelle Elisabetta Simonetta, je me trouve confinée à Côme, en Italie. Le salle de spectacle me manque énormément. Je suis une amoureuse de l'opéra, donc 5 mois d'abstinence, ça fait beaucoup pour moi. Parfois l'envie irrésistible d'une pièce à la Comédie Française m'est saisie. Mais je dirais plutôt retourner à l'opéra, oui. Pourquoi pas à l'opéra Bastille pour voir Rigoletto di Verdi ou la Bohème de Puccini. Et puis rentrer à la maison à pied, enthousiaste, discuter, échanger autour de ça. Et puis bien évidemment réécouter les airs en boucle à la maison pendant des jours.
Pour certains, ce n'est pas vraiment un manque.
Je m'appelle Pierre et je vis à Bordeaux. Pour être tout à fait honnête, j'ai vu tellement de spectacles dans mon presque demi-siècle de vie que 2 mois sans en voir, cela ne me manque pas vraiment.
Mais quand on pousse un petit peu la question...
Je rêverais de retourner au Festival d'Avignon pour faire une overdose de spectacles, mais je rêve aussi de retourner au Théâtre de la Ville pour mon rendez-vous annuel avec le Tanztheater de Pina Bausch.
Pour d'autres, ce ne sont pas les salles de spectacle qui manquent.
Je m'appelle Taïm et je suis une Française vivant à Galway, en Irlande. Le spectacle vivant ne me manque pas du tout en cette période où on nous demande de rester enfermés et l'idée de retourner dans un lieu clos n'est pas quelque chose qui m'attire du tout. Par contre, ce qui me manque, c'est la musique qu'il y a d'habitude toujours dans les rues de cette ville. Elle est très connue pour ça. Et les gens voyagent, viennent de l'Irlande tout entière pour passer du temps à Galway, pour ces musiciens des rues, ces spectacles imprévus. Et c'est quelque chose d'assez merveilleux de pouvoir marcher au hasard et tomber sur des choses très belles, souvent.
Et l'art, ça donne parfois envie d'en faire, Jean-François, comme pour la fille de cette jeune femme.
Mon nom est Zaya.
Mon école de théâtre me manque. J'aimerais rendre visite à ma grand-mère à Paris.
Quant à d'autres, ça leur donne aussi des idées.
Je m'appelle Salma Rouhari, je suis marocaine, j'habite à Rabat.
C'est drôle, ce confinement, il est tellement inspirant. J'ai pensé au fait d'écrire quelques textes comme ça, sur les musées qui sont maintenant vides. J'essaye d'imaginer ce qu'ils doivent bien se dire. Et les tableaux aussi, qu'est-ce qu'ils doivent se dire? Ils attendent aussi la prochaine expo, écrire des petits textes sur ce qui nous manque, ce qui leur manque. Bah, je trouve ça assez drôle.
C'est bientôt la fin du monde, mais le monde s'en fout. Le monde, lui, veut faire des lovés autant que dans le foot. Certains seront sûrement sauvés. Mais moi, j'ai hâte, trop de péchés exposés. Ouais, rien que je dérape, tu veux que je te raconte ma story? Ces moments maudits, où le chétan est le seul spectateur qui applaudit. Et bah, non, je peux pas me plaindre. Mon compte, il est blindé. Mon savoir est une arme qui ne cesse de tout flinguer. Mais la vie, c'est pas le rap, même si je rappe ma vie. Un mal fou à être
être présent parce que le monde va vite. Les petits refrains sont timbres et ne cessent de se flinguer. Les commissaires reprennent un plaisir à les épingler. Et quant à nos sistas, rien qu'on assiste à des autodestructions, des femmes tristes. Bimbé bimbo, pour séduire les gringos. Harry, les gens sont prêts à tout pour remplir le frigo. Je te dis que je suis
spectateur d'un film gore et je t'avoue que la suite mes frères. Spectateur d'une vie trop courte, si je pouvais réellement je la referais. Spectateur d'un film gore et je t'avoue que la suite mes frères. Spectateur
d'une vie trop courte. Parce que maman se lève tôt et mes ennemis me taisent. Et entre nous dans le ghetto, j'ai pu constater qu'on se blesse. Oui, j'ai au-dessus de la tête l'épée de Damoclès. Oui, certes on se fait la guerre, mais c'est pour avoir la main belle. Parce que maman se lève tôt et mes ennemis me taisent. Et entre nous dans le ghetto, j'ai pu constater qu'on se blesse. Oui, j'ai au-dessus de la tête l'épée de Damoclès. Oui, certes on se fait la guerre, mais c'est pour avoir la main belle. Spectateur d'un monde en péril, où la paix a signé un contrat d'intérim. Où devenir un homme sain, c'est le péril. J'ai cherché la tranquillité, putain c'est un périple. Témoin de leur débat, ils nous trouvent incultes. Rouillard, je suis venu, j'ai vu, j'ai été vaincu. On a tous vu des choses qui traumatisent. Les soirs d'hiver glacial, je peux dire que le métro m'attriste. Des fois les larmes coulent, c'est automatique. C'est peut-être la saison, ou alors c'est trop la crise. J'ai vu cet homme seul, sale, qui pue la tise. Seul, sous, sale, sous le pluie, y'a plus son fils qu'il soutient. J'ai vu la solitude de cet homme qui jadis était un leader fort et dur. Spectateur fatigué, on s'est trop tiré les cheveux. Donc à force on encaisse, on préfère fermer les yeux.
Spectateur d'un film gore et je t'avoue que la suite est mes frères. Spectateur d'une vie trop courte, si je pouvais réellement je la referais. Spectateur d'un film gore et je t'avoue que la suite est mes frères. Spectateur
d'une vie trop courte. Parce que maman se lève tôt et mes ennemis me taisent. Et entre nous dans le ghetto, j'ai pu constater qu'on se blesse. Oui, j'ai au-dessus de la tête l'épée de Damoclès. Oui, certes on se fait la guerre, mais c'est pour avoir la main belle. Parce que maman se lève tôt et mes ennemis me taisent. Et entre nous dans le ghetto, j'ai pu constater qu'on se blesse. Oui, j'ai au-dessus de la tête l'épée de Damoclès. Oui, certes on se fait la guerre, mais c'est pour avoir la main belle.
Tout ce que j'ai vu m'a démontré que les petits frères seront perdus. J'ai vu que le mal se propageait, puis perdu. Tête dure et lâche, je vois qu'on est perdu. Perdu, hélas.
Parce que maman se lève tôt et mes ennemis me taisent. Et entre nous dans le ghetto, j'ai pu constater qu'on se blesse. Oui, j'ai au-dessus de la tête l'épée de Damoclès. Oui, certes on se fait la guerre, mais c'est pour avoir la main belle. Parce que maman se lève tôt et mes ennemis me taisent. Et entre nous dans le ghetto, j'ai pu constater qu'on se blesse. Oui, j'ai au-dessus de la tête l'épée de Damoclès. Oui, certes on se fait la guerre, mais c'est pour avoir la main belle.
J'ai fait mon bout de chemin, baba.
Marjorie Bertin dans VND, merci. C'est un album plein de sentiments complexes, le premier tome d'un diptyque intimiste qui nous raconte la découverte de la sexualité chez une jeune fille, avec son cortège de fantasmes, d'inquiétudes, d'anxiétés, de représentations parfois terrifiantes, car cette jeune fille n'est pas issue de n'importe quelle famille, elle a grandi dans une famille chrétienne pratiquante, un peu hors du monde et de la réalité, au sein de laquelle ces choses-là ne se disent pas, sauf en rougissant et en suant à grosses gouttes quand on n'a plus le choix. Une famille aisée, sans problème financier, dans laquelle la femme, soumise à son mari, fait des enfants, car c'est son destin, son accomplissement, professeur. Même la maman. Cette famille, c'est celle de Florence Dupré-Latour, qu'il avait déjà mise en scène dans un premier cycle autobiographique, centré sur sa relation avec les animaux, entre sa naissance à Buenos Aires, en Argentine, et son adolescence en Guadeloupe, en passant par Nago, la grosse propriété champenoise un peu isolée du monde, mais dont le personnage fit son royaume. Trois lieux que l'on retrouve dans Débutante, le premier volet de cette histoire intitulée Pucelle. Il vient de sortir chez Dargo, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Florence Dupré-Latour.
Bonjour.
Pucelle est donc le deuxième volet de cette autobiographie dessinée. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de délaisser ainsi la fiction pour raconter votre propre histoire? Quel a été l'élément déclencheur?
Oh, je dirais le recul sur ma propre histoire. J'avais besoin de grandir et de pouvoir trouver les bons mots. Puisque au sortir de mes études, j'ai commencé effectivement à m'engager dans la fiction. Par prudence, sans doute, par intuition, parce que je sentais qu'il fallait que je maîtrise un petit peu plus deux choses, ma propre histoire et le langage de la narration, pour pouvoir bien raconter ma vie.
Et quand est-ce que vous avez estimé que le moment était venu?
Alors, je ne l'ai pas choisi. Je dirais que ce sont des événements familiaux qui m'ont permis de regarder ma propre histoire avec le bon filtre, en tout cas les bons yeux.
Alors, vous avez commencé à nous raconter donc votre propre histoire dans le premier volet de cette autobiographie dessinée qui s'appelait Cruel. Vous évoquiez votre rapport aux animaux pendant votre petite enfance, un récit à faire hurler Brigitte Bardot, si tant est qu'elle l'ait eu entre ses mains. Là, on est dans quelque chose d'encore plus intime encore, difficile d'ailleurs même de faire plus intime. Ça vous a pas fait un petit peu peur?
Non, pas du tout. Pas du tout. Ce qui me fait peur, c'est de d'écrire mollement. Et oui, ça me fait peur.
Parce que peur d'écrire de se, parce qu'on pourrait avoir peur de se dévoiler, peut-être aussi de peur de déplaire finalement au milieu dont vous êtes vous-même issu.
Oh non, pas du tout, non. La peur de déplaire, on y est tous soumis. Hein. Si on a des récits plus consensuels, on peut déplaire aussi. Et puis le milieu dans lequel je pense pas à ce genre de choses en fait quand j'écris.
D'accord. Donc vous avez raconté en romançant, en caricaturant un petit peu, ou ça s'est réellement passé comme ça? Vous avez inventé ou pas?
Alors je n'invente absolument rien. Je n'invente rien, je reste j'ai un pacte, ce qu'on appelle le pacte autobiographique avec le lecteur qui est très clair. Je raconte ma vie. Après, ce qui est certain, c'est que le rapport au réel, quand on parle d'autobiographie, il est toujours faussé, puisqu'on ne peut pas rendre compte du réel qui est passé. C'est absolument impossible. Donc forcément, il y a des réécritures progressives qui commencent déjà par la réécriture que la mémoire fait, qui va classer les souvenirs, qui va les trier, en choisir certains. Souvent, on peut aussi réécrire des événements qui se sont déroulés à notre convenance, si ça nous plaît mieux. Puis évidemment, l'écriture elle-même, le travail, le processus d'écriture passe par une forme de fiction, évidemment, bien sûr.
Un récit qui commence donc par un dîner familial. À ce moment-là, la petite Florence a 13 ans et au cours de ce repas, la maman se délecte en racontant une anecdote familiale qui concerne une grande tante. Vous pouvez nous la raconter, cette anecdote?
Alors c'est une anecdote qui délectait tout le monde et qui continue à me délecter. Je la trouve savoureuse. C'est une anecdote qui concerne une grande tante que je n'ai jamais connue et qui a eu une éducation 19e, c'est-à-dire que qui ne connaissait strictement rien à la sexualité, donc ma mère nous raconte ça, et qui va se marier jeune avec un monsieur, et lors de sa nuit de noces qui se déroulait dans la maison familiale, elle sort tout d'un coup, on entend des cris, la famille entend des cris et des hurlements, et c'est cette grand-tante qui est jeune fille, jeune mariée, qui sort en hurlant et en disant « Au secours, au secours, au secours, il veut m'enlever ma culotte. »
Voilà, et donc ça, c'est l'élément, effectivement, qui va tout déclencher dans votre récit. Tout le monde se tord de rire à table. La petite Florence aussi, elle est un petit peu gênée, même si elle comprend pas vraiment pourquoi c'est drôle. Et il y a une remarque de sa mère qui résonne tout de suite à son oreille et aux yeux du lecteur. Franchement, comment peut-on laisser une jeune fille dans une telle ignorance? Et elle se dit finalement que sa mère devrait peut-être se le demander un petit peu elle-même aussi.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bien évidemment. Après, voilà, dans les familles, il y a des histoires qui se répètent. Donc j'ai trouvé intéressant de mettre en lumière cette espèce de mécanique constante qu'on peut couper, qu'on peut faire cesser, ou alors qu'on subit. De toute façon, on va tous reproduire un petit peu certaines choses qu'on a vécues.
Oui, parce que dans cette famille, le sexe, c'est un tabou?
Alors ça a longtemps été un tabou, oui. En tout cas dans l'enfance, il y a un tabou, quelque chose, mais même pas un tabou verbalisé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément d'interdiction d'en parler, mais un silence, une absence.
C'est la faute à la religion?
Oh, c'est plus complexe, c'est une éducation qui est plus générale que celle uniquement tournée vers la religion. La religion a sans doute beaucoup œuvrer dans ce sens-là pour rendre la sexualité aussi mystérieuse que je dirais pâle, impure, sont des choses dont on, effectivement, ne parlait pas dans la famille, pas du tout, jamais.
Une famille qui vit un petit peu en vase clos, hein, c'est une famille d'expatriés. Au début de l'album, elle vit en Argentine, à Buenos Aires, au gré finalement des changements dans la carrière du père. C'est lui d'ailleurs, hein, qui commande dans la famille le père. La mère, elle est là, elle est très présente pour ses enfants, mais elle est clairement soumise à la volonté de son mari. Est-ce que vous diriez que c'est une famille patriarcale ?
Ah oui, mais complètement. Bien sûr. Après, c'est une génération qui était très marquée par ces rapports de pouvoir dans la famille. Donc moi, je veux remettre toujours, hein, bien sûr, dans un contexte particulier, des gens qui sont issus de traditions, de cultures, de culture familiale. En cela, je veux dire, ce sont pas des portraits à charge. Oui, bien sûr, c'était une famille et ça continue à l'être patriarcale. Et moi-même, j'ai des résurgences de cette éducation que j'essaie de combattre.
Alors, il y a une scène qui est quand même assez extraordinaire. Elle est à la fois terrifiante, mais c'est vrai que vous la traitez d'une façon qui la rend un peu grotesque, donc qui permet effectivement au fond du problème de passer de façon relativement drôle. C'est quand le père force les enfants à boire du lait qui a tourné et que la mère ne dit strictement rien. Quoi, c'est drôle quand on est dans l'album, mais si on s'imagine vivre ça dans la vraie vie, c'est monstrueux.
C'est pas monstrueux, je pense que c'est très banal en fait.
C'est encore plus terrible de dire ça.
Non, je pense que c'est très très banal. Et puis pour moi, c'est vraiment la démonstration d'une culture familiale. Sans doute ma mère a vu la même chose. Il est arrivé la même chose. Et sans doute mon père, quand il force les enfants à manger, à boire du lait tourné. Ça a un rapport à son histoire personnelle.
Alors,
on fait pas ça par hasard, à mon avis.
Alors, il y a une scène qui fait le lien, justement, entre cette sexualité que l'on n'évoque pas et le patriarcat. C'est ce qui arrive au cochon d'Inde. Là encore, c'est une scène assez banale. Dans plein de familles, on a vu ce genre de scène arriver. Hein, un animal domestique qui enfante, qui met bas. Et c'est vrai qu'il y a une autre scène dans l'album où on voit la petite fille que vous étiez, Florence Dupré-Latour, qui s'interroge sur un chien, qui monte sur un autre. Il y a aussi une autre scène d'écurie, cette fois, avec un étalon qu'on va dire particulièrement en forme. Et là, on fait le lien avec Cruel, avec le premier volet de votre autobiographie. On a l'impression que le rapport aux animaux, c'est un peu un fil rouge dans vos récits. C'est en observant les animaux que les petits humains que nous sommes apprennent la réalité de la vie.
Je dirais que alors pour quand on a la chance d'observer la nature, c'est une chance immense, hein. Bien sûr, on apprend énormément de choses sur les rapports du vivant, le fil rouge qui concerne les animaux, je dirais plutôt que c'est pour moi, une veine que je creuse. Je m'intéresse énormément au rapport de hiérarchie dans le vivant. Alors voilà, quand je les mets en scène dans Cruel, bon, bien sûr, il y a cette petite fille qui fait du mal aux animaux, parfois par volonté, par curiosité, parfois par mégarde. Hein, mais le fil rouge, c'est quand même les rapports de domination qu'on trouve et de hiérarchie qu'on trouve dans le vivant. Et on va forcément retrouver ces rapports-là concernant la sexualité.
Et la petite fille se régale aussi en observant la nature, hein, notamment quand elle va rentrer en France dans cette grande propriété en Champagne, hein, près de Troyes. Là, c'est le seul moment de l'album où on a vraiment l'impression qu'elle vit pleinement, quoi.
Oui, c'est une vie libre. Alors cette liberté, elle a plusieurs facettes. Vous avez une liberté de mouvement. Quand on est dans une nature et que nos parents nous laissent partir à jusqu'à 5-10 km de la maison, alors qu'on a entre 7 et 10 ans, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, le périmètre de sécurité pour un parent, c'est à la vue. Hein. Si le parent ne voit pas l'enfant, ça y est, il panique complètement. Donc il y a déjà cette première liberté. Ensuite, la liberté de pouvoir du temps. Pouvoir justement partir aussi loin et aussi longtemps que l'on souhaite, Ma mère nous appelait à table avec une cloche. Donc c'est le son de la cloche qui portait à quelques kilomètres et qu'on entendait, qui nous faisait revenir. Mais également la liberté de dans les rapports de pouvoir, puisque mon père était très absent. Et donc il n'exerçait pas son pouvoir sur moi.
Aujourd'hui c'est la mode, on se croit obligé d'apprendre aux gens comment s'aimer. On veut leur faire croire que l'amour c'est compliqué. Dans toutes les vitrines, on voit des magazines remplis de photos insensées qui donnent des tas d'explications pour mieux s'aimer entre filles et garçons. Je t'ai rencontré, j'ai su que tu étais celui dont je rêvais la nuit. Tu m'as souri si tendrement en me voyant. Un premier rendez-vous, un baiser un peu fou avant de me raccompagner. J'aurais bien fait n'importe quoi pour te garder plus longtemps près.
Côté Sheila, hein, mais c'est Julie Bataille que l'on entend sur RFI. Julie Bataille qui chantait en 1975 Pas besoin d'éducation sexuelle et qui se hissait avec cette chanson au sommet du top 50 avec cette profession de foi, si j'ose dire. Pas besoin d'éducation sexuelle pour tomber amoureux, c'est sans doute vrai, c'est quand même mieux d'en avoir une quand même, Florence Dupré-Latour. Et la petite Florence que vous êtes dans cet album intitulé Pucelle que vous publiez chez Dargaud, elle en manque, j'allais dire, cruellement. Alors on le disait, hein, dans cette famille, on n'en parle pas de sexualité, en tout cas, on n'en parle pas aussi longtemps que possible, ce qui n'empêche pas évidemment la petite fille de se poser pas mal de questions.
Oui, des questions évidemment. Après, ce morceau très, très, très amusant qui vient de passer, parle d'éducation sexuelle, je parlerai peut-être plus de sécurité. Sexuelle, se sentir sécurisé dans la survenance de ces changements du corps, donc notamment l'arrivée des règles chez les jeunes filles qui doivent être absolument sécurisées en ayant des protections hygiéniques, enfin le minimum, hein, parce que c'est très insécurisant, déjà de ne pas savoir exactement de quoi il en retourne, combien de temps ça va durer, Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est ça va sentir mauvais? C'est des choses très très simples, hein, comme ça, et qui manquent encore, je pense, cruellement dans beaucoup de familles.
Alors tout va se mélanger dans la tête de la petite fille jusqu'à former une petite boule noire qui va qui va grandir, qui va l'étouffer de l'intérieur, une sorte d'araignée ou de pieuvre. Il fallait dessiner, il fallait styliser ainsi ce qu'elle ressent.
Oui, les sensations sont abstraites. Et donc le dessin a cela de formidable. C'est un magnifique vecteur pour représenter ce qui ne peut pas être dit. Et pour moi, ça a été une libération à l'adolescence. J'étais totalement mutique. Et j'ai trouvé le dessin qui est devenu pour moi un second langage.
Et c'est vrai que votre dessin prend toute sa force, notamment à travers cette boule noire, ce pulsar, ce trou noir, pour reprendre l'expression que vous utilisez dans l'album. Alors, il y a des cases absolument marquantes, hein, en particulier celles qui touchent au sang, à travers les premières règles en particulier. Vous l'évoquiez un instant, on va y revenir dans un instant. Et en même temps, on est aussi dans le comique. Et c'est vrai que votre trait, il est quand même extrêmement expressif. Comment est-ce que vous avez trouver le ton juste entre ce qui doit souligner par le dessin l'anxiété, voire cette impression d'horreur, et cette dimension plus légère, plus comique.
J'ai toujours été attirée par les œuvres qui ont cette tonalité tragicomique. Pour moi, c'est celle qui provoque en moi des sensations les plus fortes, puisque alors je vais citer Charlie Chaplin. Même si je n'arrive pas à la cheville de son art, mais pour moi c'est une référence que je garde toujours en tête. Et alors c'est vrai que j'ai des personnages qui vont qui vont être traités de manière assez caricaturale, exagérée, avec des mimiques qui n'ont rien à voir avec les mimiques que nous les humains faisons dans la vie de tous les jours. On serait totalement grotesque si on ouvrait des grands yeux, si on se mettait à crier. Mais cette caricature des émotions, elle reflète en réalité ce que nous ressentons, puisqu'on peut avoir un visage de marbre et une vie intérieure extrêmement violente. Puisque par politesse et par convenance sociale, on essaie de faire souvent bonne figure. Seuls les petits-enfants, justement, n'ont pas de filtre.
Oui, et c'est vrai que quand les parents finissent par expliquer à leur fille qu'elle va devenir une femme, autrement dit que son corps va se transformer, là, les parents, on présente précisément ces figures caricaturales et exagérées. Le père devient rouge cramoisi, il suit tous les deux à grosses gouttes. Il y a plusieurs reprises, d'ailleurs, dans l'album, Florence Dupré-Latour, le visage de la mère est un visage vraiment tout en sueur, un visage absolument dégoulinant. Alors, on pense à Reiser, on pense à Claire Bretéché, ce sont des auteurs qui font partie de vos influences graphiques ?
Absolument, absolument. Voilà, c'est toute une famille d'auteurs qui m'ont marqué enfant, durablement. Donc je peux citer aussi Quentin Blec, je peux citer alors plus récemment Aude Picot, Catherine Meurice. Voilà, ce sont des familles de dessinateurs et de dessinatrices qui vont avoir un dessin assez spontané. Assez vivant et jeté également.
Et effectivement, et très expressif, notamment à travers les bouches de vos personnages, Florence Dupré-Latour.
Oui, oui. Alors, j'étais assez marquée par comme beaucoup, hein, par l'arrivée du manga japonais, et où ce travail justement de la caricature et de la caricature des visages notamment et des expressions, pour moi ça a été vraiment un choc esthétique intense de voir arriver notamment dans Dragon Ball cette explosion de d'expressions, et je pense que ça se retrouve un petit peu dans cet album.
12 fois par an régulièrement elle se tord de douleur, se mord les doigts dans son lit, étouffant ses cris, elle a mal. Ce mal vif et lourd la tient nuit et jour, c'est ça, être une femme, un être de chair et de sang, c'est beau et pourtant ça fait mal. Que faut-il donc faire pour que de ses fers, de ce joug qui d'elle se joue. Elle se délivre seule dans son givre. D'eau de mer glisse et coule le long de son cou. Douleur abhorrée, quand vas-tu filer? Elle a mal. Son ventre est un feu, un volcan fiévreux qui crie à sa place les mots, les angoisses que ses lèvres taisent. Alors dans sa braise, régulièrement, elle se tord de douleur, se mord les doigts de son lit, étouffant ses cris. Elle a mal.
Douze fois par an, Jeanne Chéral dans VMDN sur RFI avec Florence Dupré-Latour pour son album de bande dessinée débutante, premier tome de son cycle Pucelle, distribué par Dargo, qui raconte son apprentissage de la sexualité de l'enfance à l'adolescence, avec notamment la découverte des règles que chantait, donc évidemment précisément à l'instant, Jeanne Chéral. Et quand on évoque les règles dans l'album, Florence Dupré-Latour, eh bien on découvre des flots de sang qui jaillissent du corps de la pauvre petite Florence. C'est surprenant, c'est aussi extrêmement violent.
Mais quand on n'est pas préparé et que alors dans cet album bien sûr il y a la je raconte les angoisses qui accompagne la survenance de la puberté, donc des règles, et des angoisses qui passent par l'imaginaire de cette petite fille qui récolte petit à petit des informations, elle les glane, et elle va se faire une montagne de choses finalement naturelles, assez simples, hein, les règles, mais c'est son paysage mental qui est représenté dans l'album.
Voilà, c'est vrai, c'est ça. Quand elle apprend qu'elle va avoir du sang entre les jambes, ce sont vraiment des flots de sang qui jaillissent. Quand on lui dit qu'elle va avoir des poils, eh bien, elle s'imagine avec des très longs poils partout. Oui. Quand on lui parle de sa future poitrine, elle voulu dessiner des énormes obus qui pointent. On est vraiment dans cette dimension à la fois caricaturale, mais aussi qui va vraiment un peu plus loin, parce que ça montre effectivement ses angoisses très très intérieur, hein, finalement de votre personnage. Et sa mère lui dit à la petite Florence: tu vas avoir des petits bébés, c'est le destin des femmes, c'est leur accomplissement. Alors le mot accomplissement, Florence Dupré-Latour, je pense qu'il va susciter énormément de réactions chez vos lectrices.
Je peut-être. Après, j'ai eu des conversations assez récentes avec ma mère qui continue à penser de cette manière-là, et de nombreuses personnes s'imaginent que si on n'a pas d'enfant, on n'est pas une vraie femme, que je trouve d'une violence inouïe.
Donc les féministes vont forcément hurler en lisant les mots que vous mettez dans la bouche de votre maman. Est-ce qu'on peut dire que, à contrario, cet album est un album féministe? Parce qu'on ne sait pas toujours s'il faut s'indigner, s'il faut rire, s'il faut pleurer.
C'est pas à moi de choisir quelles vont être les réactions des lecteurs. Après,
mais quelle était votre intention?
Je décris ce que dit ma mère. Il n'y a pas d'intention.
Mais le simple fait de publier cet album, c'est aussi une oui. façon de militer, non?
Oui. Oui, et bien sûr, c'est une façon de militer. Mais malgré moi, il se trouve que une femme qui raconte sa vie, si elle le fait vraiment, elle va être forcément féministe. Je vois pas comment elle pourrait échapper à ça.
Alors nous nous sommes interrogés, Florence Dupré-Latour, comment les petites filles de votre génération ont été biberonnées à la découverte de la sexualité à travers la lecture, à travers les dessins animés qui ont rythmé leur enfance ou leur adolescence. Petite enquête dans le rétroviseur pour VMDN, signée Amélie Beaucourt.
Et toi, tu sais comment on fait les bébés?
Avec la petite graine.
La petite graine? Et on la met où, la petite graine?
Dans l'oreille, tiens.
Ah, dans l'oreille.
Cet extrait du dessin animé Tom Tom et Nana, adapté de la bande dessinée de Jacqueline Cohen et Bernadette Després, résume bien la question que se posent de nombreux enfants. On peut lire leurs aventures dans le magazine J'aime lire depuis 1977, mais dans les bibliothèques à cette époque, il n'y a que très peu de livres qui racontent justement comment on fait les bébés. L'un des précurseurs de ces années-là s'appelle « La naissance », écrit par Agnès Rosenstiel, c'est la mère de Mimi Cracra. Dans cet album destiné aux plus jeunes, elle aborde la sexualité sans tourner autour du pot, en montrant les sexes et les corps nus. Du côté des ados, ce sont les autrices américaines Judy Blume et Suzy Morgenstern qui, à la fin des années 80, évoquent ouvertement le désir sexuel chez les adolescentes. À la télévision, c'est pareil. En dehors des films à carré blanc, l'ancêtre de l'interdiction au jeune public, il est très peu question de sexualité. Dans les séries pour ados, on parle ouvertement d'amour et de flirt, Hélène et les garçons, premier baiser, les filles d'à côté. Mais quand il faut parler concrètement de sexualité et la mettre en mots, là, il n'y a plus personne.
On est tombé sur Nicolas et Nathalie.
Non.
Et si.
Mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec Nathalie?
À ton avis.
Les seules vidéos qu'on trouve en libre accès sur le sujet sont des supports pédagogiques. Elles apparaissent vers la fin des années 80, en parallèle des campagnes de prévention contre le sida, et on a évidemment en tête le très anatomique « Il était une fois la vie » diffusé pour la première fois en 1987. Dans l'unique épisode qui parle de sexualité, on retrouve à l'écran un homme et une femme qui s'enroulent l'un contre l'autre jusqu'à former une sorte de boule en pâte à modeler, et tout de suite après, sans qu'on sache vraiment comment ils se sont retrouvés, là, tout un régiment de spermatozoïdes en armure sont lancés dans une course folle jusqu'au voisinage de l'ovule.
Des centaines de millions de spermatozoïdes partent à l'assaut. C'est une fantastique course d'obstacles. Bien peu d'entre eux vont parvenir au voisinage de l'ovule.
Youhou ! Ouais !
Un ovule ? Mais c'est quoi ça, un ovule ? Madame ! Madame, un spermatozoïde, ça suffit pas pour avoir un petit enfant?
Bien sûr que non, Titeuf. Il faut aussi un ovule. Ce sont les.
Ça, c'était la voix de Titeuf, la mèche blonde la plus célèbre de la bande dessinée depuis 1993. Et le jeune écolier dessiné par Zep met justement le doigt sur une question intéressante. Et les filles dans tout ça? Elles sont les grandes oubliées. Pas question de règles, encore moins de plaisir féminin ou de clitoris, sauf dans une rare collection de dessins animés plutôt en avance sur son temps, même s'il ne serait plus d'actualité en 2020. Ça s'appelle Le Bonheur de la Vie, sorti en 1992, et dans ces épisodes de 5 minutes, une grand-mère raconte en détail à ses petits-enfants le sexe qui ne sert pas à faire des bébés.
Faire l'amour, c'est partager le plaisir sexuel. Se caresser, s'embrasser, se respirer, s'imprégner, se pénétrer l'un de l'autre, obtenir et donner du plaisir. Le pénis doit être en érection pour pouvoir entrer dans le vagin.
Malheureusement, cette série est assez peu connue. Alors quand on a des questions à cet âge-là et qu'aucune réponse n'émerge de la bibliothèque, de la télévision ou de notre grand-mère, il reste une dernière chose. C'est la radio.
Entre 19h30 et 22h, Love in Fun avec Doc et Deepfool. Le sexe sans complexe, l'amour avec humour.
Voilà, Loving Fun sur Fun Radio dans les années 80, un vrai phénomène de société à l'époque. C'était un dossier signé Amélie Beaucourt dans VMDN. Alors dites-nous, Florence Dupré-Latour, est-ce que quelques-unes des références évoquées par Amélie, il y en a eu beaucoup, aussi bien à la radio qu'à la télévision ou dans la bibliothèque, est-ce que quelques-unes de ces références ont aussi participé à la construction de la petite fille que vous étiez?
Alors je n'en ai connu aucune. Uniquement, mis à part la dernière, donc sur Fun Radio, cette émission de Doc et Deepfool, que j'ai écoutée mais de manière compulsive, je dois avoir 14-15 ans. Et pour moi, entendre des gens parler ouvertement de ce qui était innommable, interdit, et même impensé, j'étais absolument fascinée par la possibilité qu'avaient, non pas ces adultes, hein, Doc et Deepfool qui étaient des adultes, mais de ces jeunes qui prenaient, qui avaient le courage, la folie, de s'exposer comme ça et d'exposer leurs problèmes sexuels. Parfois c'était même très trivial, hein, et toujours très drôle. devant tout le monde.
Mais avec le recul que vous avez maintenant, Florence Dupré-Latour, quelle place pour la fiction, l'éducation familiale et l'école dans, dans l'apprentissage de la sexualité et de son corps pour une petite fille ?
Aujourd'hui, je pense que il y a beaucoup de jeunes filles qui vont sur les réseaux, sur Instagram notamment, pour s'en renseigner. Parce que l'école, elle fait un travail qui est assez froid, assez scientifique, qui est très bien. Ça l'a dit, hein, en SVT, on apprend comment on se reproduit. Mais on n'apprend pas forcément, après je ne suis pas retournée à l'école depuis longtemps, vous me direz, mais on n'apprend pas forcément le plus important, c'est-à-dire le respect de son propre corps, l'éducation sentimentale également, qui est indispensable. Savoir comment aimer et être aimé.
Et la bande dessinée, l'animation, puisque vous avez travaillé dans l'animation, en particulier sur l'adaptation du Petit Vampire de Johann Sfar pour la télé, ça peut y contribuer ?
Oui, bien entendu. Bien entendu. Oui, tous les supports sont bons, il me semble.
Parce qu'il y a une page dans l'album sur différents personnages féminins de la bande dessinée classique, c'est la page 100, hein, oui. Et on n'a pas l'impression, en regardant cette planche, que ça aide beaucoup.
Ah, mais oui, mais vous avez des auteurs des années 80, 90.
Oui, mais c'est des classiques. Il y a Hergé et Uderzo. Ouais. C'est quand même oui. Des auteurs que les petits enfants d'aujourd'hui connaissent aussi.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je trouve que ce serait nécessaire de republier ces classiques avec un petit encart qui pourrait expliquer que si les femmes sont représentées de manière aussi stupide, il s'agit d'une culture qui avait cours à ces époques-là. Donc ne lire que des productions qui sont clairement misogynes, c'est quand même très néfaste, hein, pour une petite fille, pour un petit garçon, c'est pareil.
Donc Tintin et Astérix, c'est de la bande dessinée misogyne.
Oui, bien sûr.
Vous pouvez nous expliquer en quoi ? Ça semble évident, effectivement, qu'on réfléchit, mais ce n'est pas forcément le premier réflexe qu'on a en parcourant un album.
Non, ça ne se ressent pas. Alors, chez Tintin, moi, j'étais fascinée par Tintin parce qu'il y avait le même silence autour de la sexualité. Il y a toujours des discours en creux, il n'y avait pas de femmes.
Alors il y a la Castafiore, dont certains psychanalystes estiment que c'est une forme de représentation de la mère castratrice pour Tintin. Quoi. Il y a beaucoup de littérature qui ont été publiées là-dessus.
Oui, c'est un monstre, la Castafiore. C'est pas une femme, c'est un monstre.
Voilà, vous la dessinez d'ailleurs à votre sens dans l'album. Et puis les femmes du village d'Astérix, elles aussi, elles y ont droit.
Alors oui, c'est plutôt dans le ils sont tous caricaturaux chez Astérix, hein. Donc je dirais plutôt que c'est leur fonction. Elles ne font rien de particulièrement intéressant, les femmes.
Elle a changé, la bande dessinée franco-belge aujourd'hui ?
Ah oui. Oui. Une grande partie de la bande dessinée franco-belge a évolué. Les auteurs prennent conscience du mouvement, grâce justement aux féministes, au mouvement féministe qui éduquent et qui combattent ces idées qui nous semblent révolues et dommageables pour les esprits.
Et à l'école, ça a changé aussi, Florence Dupré-Latour, parce qu'il y a aussi une autre planche cette fois-ci avec les programmes scolaires où on découvre en vous lisant, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément pensé à ça quand on y était à l'école, que la seule vraie héroïne et non pas héros de l'histoire de France, c'est Jeanne d'Arc. Oui. Et c'était la pucelle. Et là, on retrouve le titre de votre album.
Ouais, la Vierge. Donc la seule possibilité de devenir, d'accéder à l'héroïsme, était justement de rester chaste. Puisque la seule héroïne positive, qui active, guerrière, qui sortait justement de la maison, du confinement de la maison, eh bien c'était Jeanne d'Arc et elle était vierge. Actuellement, oui, il y a des choses qui sont faites pour faire entrer dans les programmes scolaires des autrices, des écrivaines, des artistes femmes qui ont été complètement jetés dehors, en dehors du champ des arts et de la culture, en dehors du champ même des mathématiques, des sciences, de l'histoire, elles ont été écrabouillées par les vainqueurs, ceux qui écrivent l'histoire.
Voilà, Pucelle, c'est le titre de cet album que vous publiez aux éditions d'Argo. C'est une tradition dans cette émission, on demande toujours, lorsqu'on reçoit un auteur de bande dessinée, de nous raconter et de nous décrire la couverture.
Ah, oui, alors la couverture, c'est une couverture qui est en deux parties. La partie haute est sur fond blanc et représente une grande fleur, et la partie basse est un champ de choux. Des choux verts, bien, bien dodus. Sur ces choux, on voit des petits garçons, des petits bébés qui ont des couches et qui sont sur ces choux. Et cette grande fleur sort de ces choux. Elle est très, très rouge. Elle est rubiconde, elle est turgescente. Elle suggère... elle est très sexuelle. Et sur cette fleur est endormie une petite fille.
Merci beaucoup Florence Dupré-Latour. Débutante, le premier volet de Pucelle est paru aux éditions d'Argo. Vous avez déjà le titre du second volet ?
Oui, Pucelle, confirmé.
Voilà, il est prévu pour quand le deuxième tome ?
Oh, d'ici 9 mois.
Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Florence Dupré-Latour.
Merci.
Une pause et c'est le journal sur RFI. À demain et vous m'en direz des nouvelles. At the age of 5, my mother's child gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to leave me, baby. I have lots of fun. I'm a man.
Tout à l'heure.